Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui: restitution des biens aux églises, les autorités protestantes, juives et catholiques protestent contre la campagne social-démocrate. Affaire Open Card, la police demande l'inculpation de 5 personnes. Jeux Olympiques de Londres, 2 nouvelles médailles de bronze pour les Tchèques. La conférence épiscopale tchèque, le conseil de l'église œcuménique et la fédération de la communauté juive ont vivement protesté ce jeudi contre ce qu'ils considèrent être une campagne du parti social-démocrate contre la loi de restitution des biens aux églises. Selon la déclaration commune qu'ils ont transmise à l'agence de presse ČTK, cela traduirait la façon dont les sociaux-démocrates mènent la lutte préélectorale, qui serait une méthode inculte menaçant l'essence même de la démocratie. Alors que la Chambre des députés a approuvé cette loi de restitution des biens aux églises, une commission sénatoriale a conseillé aux membres du Sénat, où les sociaux-démocrates sont majoritaires, de la rejeter. Le texte prévoit de restituer à 17 églises du pays 56% de leurs biens et de leur verser progressivement sur une période de 30 ans une compensation de près de 2,35 milliards d'euros pour les biens ne pouvant être restitués. Lubomir Zaorarek, le vice-président du Parti social-démocrate, a rejeté les accusations portées ce jeudi par les communautés catholiques, protestantes et juives, comme quoi la campagne menée par le parti contre la loi de restitution des biens aux églises peut être assimilée à de la propagande similaire à celle des anciens systèmes totalitaire. Un centre destiné à l'intégration des étrangers doit ouvrir dans le centre de Prague lundi prochain. Les employés de ce centre auront pour mission d'aider les ressortissants étrangers dans leur démarche administrative, de les mettre en relation avec les institutions compétentes pour répondre à leurs besoins ou encore de leur fournir une assistante juridique. Au total, 4 centres d'intégration devraient être opérationnels dans les mois à venir pour aider les quelques 200 000 étrangers qui vivraient à Prague, ville de 1,2 million d'habitants. Le projet a coûté environ 1,5 million d'euros. Corruption. La police anticorruption a requis ce jeudi l'inculpation dans l'affaire Open Card de l'ancien responsable informatique de la mairie de Prague ainsi que de 4 autres fonctionnaires de la municipalité. Selon les détectives, ces personnes seraient responsables d'avoir conclu des contrats désavantageux pour la ville de Prague, causant un préjudice évalué à près de 70 millions de couronnes. L'Open Card est une carte mise en service en 2007, censée faciliter les paiements des Pragois pour divers services publics et notamment pour les transports en commun. Le coût du projet, près de 32 millions d'euros, aurait été surévalué. L'inflation des prix à la consommation en République tchèque sur un an s'est élevée à 3,1% en juillet. Il s'agit d'un ralentissement de 0,4 points par rapport au mois de juin. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par l'Office national des statistiques. Selon les spécialistes, le taux d'inflation ne devrait pas dépasser la limite des 4% cette année. Pour le premier semestre de cette année, la police en charge de la sécurité routière a contrôlé 2500 personnes conduisant sous l'emprise de drogue, soit 300 de plus que l'année dernière. Les conducteurs concernés appartiennent majoritairement à une classe d'âge qui va de 18 à 40 ans. Aucune des victimes d'accidents de la route n'était sous l'emprise de drogue durant la première moitié de l'année. Selon des statistiques provisoires de la police, l'alcool serait en revanche impliqué dans le décès de 18 à 22 conducteurs sur la même période. Du sport maintenant et tout d'abord les Jeux Olympiques de Londres. Troisième de la finale olympique du 400 mètres haies mercredi soir à Londres, Susanna Hajnová a remporté la 6e médaille tchèque depuis le début des Jeux. Auteur d'un temps de 53 secondes et 38 centièmes, l'athlète tchèque a été devancée par la russe Natalia Antiuk, médaillée d'or, et par l'américaine Lashinda Demus. La médaille de bronze de Susanna Hajnová est la première médaille tchèque en athlétisme. Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostal et Jan Štěrba ont terminé 3e de la finale olympique de kayak à 4000 mètres en ligne disputée jeudi matin et ainsi décroché la médaille de bronze. Il s'agit de la 7e médaille tchèque aux Jeux de Londres, soit déjà une de plus que le total de Pékin il y a 4 ans. Football, il n'y aura pas de club tchèque en Ligue des Champions cette saison. Le Slovan Liberec a en effet été éliminé par les Roumains du club de Cluj lors du 3e tour préliminaire. Mercredi soir, devant son public, le champion de République tchèque a été battu 2-1 lors du match retour. Cette défaite faisant suite à la première 1-0 déjà concédée la semaine dernière à l'aller en Roumanie. Suite à cette élimination, le Slovan Liberec va désormais participer au 4e tour préliminaire de la Ligue Europa. On finit avec la météo. Vendredi, jour de la fête de tous les Vavjinets, les Laurents en français. Si le ciel reste nuageux par endroits, le soleil devrait se faire une place de choix malgré un risque d'averse en Silésie. Les températures sont stables et varient entre 18 et 22 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme avec Anna Kubista.
faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Pierre pour son bulletin d'information. La police en charge de la lutte contre la corruption a mené une perquisition mercredi à Prague dans les bureaux de Czech Invest, agence nationale chargée de la gestion des subventions en provenance des fonds européens et qui s'occupe des investissements en République tchèque. Et les détails dans quelques minutes. Il y a 10 ans, la République tchèque était frappée par des crues dévastatrices. Nous reviendrons sur cette catastrophe naturelle qui avait soulevé une vague de solidarité dans le pays. Bonne écoute de ce programme. La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe. Mercredi, la police en charge de la lutte contre la corruption a perquisitionné les bureaux de Czech Invest à Prague. Czech Invest, c'est l'agence nationale chargée de conseiller les entrepreneurs tchèques et les investisseurs étrangers désireux de s'implanter en République tchèque. Dans le viseur de la police, une commande douteuse pour la constitution d'une base de données recensant l'immobilier industriel proposé aux investisseurs. Guillaume Narguet.
Pour présenter Czech Invest, rien de mieux que des chiffres. Depuis sa création en 1992 par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'agence tchèque pour le développement économique et les investissements a contribué à la réalisation de 1800 projets d'une valeur globale de près de 30 milliards d'euros. Au-delà de ce bilan chiffré, Czech Invest, vitrine de l'économie tchèque, c'est aussi où c'était un des rares organismes d'État possédant une réputation sans tache. Depuis la razzia, surprise effectuée par la vingtaine de policiers mercredi, et la publication de l'affaire en première page des journaux jeudi, cette image lisse d'institution œuvrant sans bruit et scandale au développement et à la réussite des projets d'investissement en République tchèque a été quelque peu écornée. Concrètement, la brigade de lutte contre la criminalité économique mène une enquête sur un marché relatif à la recherche d'immeubles industriels et de terrains pour les investisseurs. L'appel d'offres a été remporté par une société nouvellement créée l'année dernière et dont le directeur est une connaissance du directeur général de Czech Invest, Miroslav Křížek. Il y a un mois, le site internet d'information Česká pozice avait rapporté l'information selon laquelle l'appel d'offres n'aurait pas été publié en temps voulu sur le site internet de Czech Invest. Seules certaines sociétés, mâles ou inconnues dans le secteur, avaient répondu à cet appel d'offres, à la différence des agences patrimoniales réputées pas au courant de la procédure. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Martin Kuba, avait alors réagi à la publication de ces informations, comme il l'a expliqué.
Dès que sont apparues en public des informations selon lesquelles il aurait pu y avoir une façon de procéder dans l'attribution du marché qui n'était pas conforme aux démarches habituelles, j'ai commandé un audit. Celui-ci est en cours, il ne nous manque plus que l'analyse informatique qui doit nous permettre de déterminer si toutes les informations relatives à ce marché ont bien été publiées sur le site internet de Czech Invest, ce qui a précisément été mis en doute. Mercredi, justement, si la police n'avait pas mené sa perquisition, les experts en informatique que nous avons chargés de réaliser l'analyse devaient se rendre au siège de Czech Invest pour vérifier tout cela.
Suite à la publication de ces informations, le marché n'avait cependant finalement pas été attribué. Un fait qui n'empêche pas la police de poursuivre son enquête, comme s'en est félicité mercredi le directeur général de Czech Invest, Miroslav Křížek.
Nous coopérons au maximum avec la police pour que toutes les informations puissent être examinées et vérifiées. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire, ce qui permettra d'infirmer certaines informations une bonne fois pour toutes.
Le directeur de Czech Invest a également précisé qu'aucun des employés de l'agence n'avait été inculpé. Néanmoins, tandis que certains employés ont été priés de rentrer chez eux mercredi, d'autres se sont vus interdire de toucher à leur ordinateur. Et pour Stanislav Beranek, un des responsables à Prague de l'ONG Transparency International, cette affaire ne s'arrête pas avec l'annulation de l'attribution de marché. Il explique pourquoi.
On voit bien qu'il y a une façon de procéder inhabituelle et que ce qui importe, ce n'est pas seulement l'appel d'offres manipulé, mais surtout le fait qu'il y ait eu manipulation. Cela signifie qu'il y a eu un détournement de l'activité de base de Czech Invest pour éviter le contrôle de l'administration publique.
Jeudi, aucune nouvelle information n'avait été communiquée sur la suite de la perquisition, la police ayant fait savoir qu'il faudrait attendre la semaine prochaine pour en savoir plus.
Il y a 10 ans, au début du mois d'août 2002, la République tchèque vivait une catastrophe naturelle sans précédent. Après plusieurs jours de pluie torrentielle, les rivières ont débordé et une importante partie du territoire tchèque a été inondée. Selon les hydrologues, les crues de cette catégorie ne reviennent en moyenne que tous les 500 ans. Václav Richter.
Le bilan de la catastrophe a été terrible. 225 000 habitants ont été évacués, 17 personnes sont mortes, 753 villes et communes ont été ravagées par les eaux. Les dégâts ont été évalués à plus de 73 milliards de couronnes, quelque 3 milliards d'euros. À Prague, la crue a ravagé plusieurs quartiers, le métro a été inondé, les transports publics paralysés, de nombreux monuments historiques gravement endommagés. Il a fallu évacuer des dizaines de milliers de Pragois. Le directeur de la cellule de crise de la municipalité de Prague, Peter Beran, explique que la capitale n'était pas préparée à une catastrophe de telle dimension.
Prague n'était protégée que contre une crue centennale, comme il est courant dans le monde, où les villes se protègent en général contre les inondations qui ne reviennent qu'une fois par siècle. Les expériences des inondations encore plus importantes nous ont manqué. Nous avons donc préparé le système de parois amovibles sur les bords de la Vltava, dans la vieille ville et dans le quartier de Josefov. Mais finalement, il s'est avéré que c'est une crue qui ne revient en moyenne que tous les 500 ans et à laquelle nous n'étions pas préparés. Nous avons quand même réussi à protéger une partie de Josefov et de la vieille ville.
Pour se protéger contre de telles catastrophes, la région de Prague a été obligée par la suite de prendre d'importants crédits dont les paiements s'échelonnent sur une trentaine d'années. Selon Peter Beran, le système de parois amovibles a été élargi et perfectionné pour protéger la capitale tchèque contre un niveau de crue qui ne vient que deux fois par millénaire avec une réserve de 30 cm.
Aujourd'hui, à mon avis, et selon l'avis des experts, la ville est protégée suffisamment. Nous avons aussi réalisé d'autres mesures, dont celle dans le système de canalisation. Désormais, donc, l'eau ne pourra même pas pénétrer dans la ville par les canalisations.
Parmi les régions les plus éprouvées par la catastrophe, il y a eu la Bohême du Sud, où de nombreuses communes ont été ravagées et le village de Metli a été pratiquement rasé. Le président du conseil régional de Bohême du Sud, Jiří Zimula, souligne que cette dure leçon que la nature nous a donnée ne doit pas être oubliée.
Je pense que l'expérience que la Bohème du Sud et la République tchèque en général ont acquise lors des grandes crues oblige tout homme politique responsable à craindre chaque pluie torrentielle. Aujourd'hui encore, même les orages locaux provoquent la peur des gens qui gardent en mémoire les inondations d'il y a 10 ans. Notre devoir est donc non seulement de craindre et de respecter la nature, mais de mettre en place en même temps des mesures anti-inondations pour protéger les gens.
Jiří Zimula constate qu'en Bohême du Sud, au cours de la dernière décennie, 1,5 milliard de couronnes, 60 millions d'euros, ont été investis dans les mesures anti-inondation. Le président du conseil régional pose cependant aussi la question cruciale du rapport de l'homme vis-à-vis de la nature.
L'homme doit-il construire des barrières en béton pour maintenir l'eau dans le lit des rivières ou devenir plus humble dans son rapport vis-à-vis de la nature? Ne faut-il pas modifier le paysage pour éviter les grands dégâts à venir? Je vois qu'on continue de construire de nouvelles maisons dans les zones à risque et j'ai l'impression que certains gens sont incorrigibles. Chaque homme politique, qu'il soit maire ou président du conseil régional, devrait procéder à la planification territoriale en tenant compte des conséquences d'éventuelles inondations.
Le 10e anniversaire de la grande crue de 2002 est donc une occasion de faire le bilan des mesures anti-inondations réalisées, mais aussi de ce qui a été fait pour rendre au paysage sa capacité naturelle d'absorber l'eau.
Dans ce magazine touristique de Radio Prague, nous vous emmenons dans le quartier juif de Třebíč, unique monument de la culture juive en dehors d'Israël, à figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à l'échelle européenne. Inscrit en 2003 sur la prestigieuse liste avec le cimetière juif et la basilique Saint-Procope, le quartier juif de Třebíč a su conserver ses deux synagogues, son hospice, la résidence du rabbin et un ensemble de 120 maisons dont les emplacements et les fondations n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. village. Aujourd'hui, beaucoup de ces maisons sont aménagées en cafés, librairies, ateliers de céramique et galeries. Visite sur les traces d'une culture millénaire à Třebíč, ville de 40 000 habitants située au sud-est de la Moravie, avec Jarka Gisubelová.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
L'ancien ghetto juif de Třebíč est un monde hors du temps, plein de charme et de mystère. Longeant la rivière Jihlava, il est appelé par la population locale soit Vžidech aux Juifs, soit Zámostí, derrière les ponts. Deux ponts mènent de la place centrale de Třebíč au quartier juif. Ce dernier se trouve en voisinage immédiat de la basilique chrétienne Saint-Procope datant de 1260. Les bons rapports entre les deux cultures chrétiennes et juives et la tolérance réciproque expliquent pourquoi la ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, observe notre guide Renata Paulova.
Židé a křesťané tady vedle sebe žili, i když teda tady bylo ghetto.
Juifs et chrétiens ont vécu ici côte à côte pendant des siècles, sans problème ou conflit quelconque. Jamais aucun pogrom contre cette communauté ne s'est produit ici.
Pour Renata Paulova, la communauté juive qui s'est constituée à Třebíč était dépendante du couvent bénédictin, fondé ici au début du XIIe siècle.
On suppose que les Juifs sont venus s'installer dans cette localité depuis le Moyen-Âge et ils y ont vécu sans interruption jusqu'en 1942. Leur venue est liée à la fondation du couvent bénédictin à Třebíč en 1101. Le marché qui s'est créé autour du couvent y a attiré des marchands. La première mention de la présence des Juifs à Třebíč remonte à 1338. Le quartier connaît un essor à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Or, en 1723, un nouvel édit est promulgué. Il stipule que les Juifs doivent être cantonnés dans le ghetto. Ils sont autorisés à être engagés dans les tanneries. Ils peuvent aussi produire de l'alcool et des gants, faire commerce et prêter de l'argent. Limité par la rivière Jihlava et la colline surnommée Hradec, le ghetto de Třebíč devient peu à peu le plus important de Moravie. Entre les 18e et 19e siècles, il compte 1700 habitants. Avec l'adoption de la nouvelle constitution en 1848, les restrictions sont abolies. Les Juifs peuvent sortir du ghetto, acheter des terrains et des maisons et déménager dans d'autres villes.
Beaucoup de familles, surtout les plus riches, quittent alors Třebíč pour aller s'installer à Jihlava, Brno ou Vienne. Renata Paulova.
Poslední Židé tu žili před druhou světovou válkou.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, Třebíč comptait 280 habitants juifs. Au mois de mai 1942, ils ont été tous déportés, d'abord à Térésine, pour être ensuite redirigés vers Auschwitz et d'autres camps d'extermination. Après la guerre, une dizaine à peine de survivants de la Shoah sont restés à Třebíč. Ce nombre ne suffit pas pour que la communauté puisse être recréée et donc il n'y a plus de communauté juive à Třebíč. L'ancien ghetto inhabité se dégrade et tombe en ruine. Le projet d'assainissement élaboré dans les années 1970 prévoyait sa destruction complète et l'édification de nouveaux logements. Heureusement, il n'a pas été mis en œuvre, faute de moyens. Un projet opposé, lancé au début des années 90 et visant la sauvegarde du quartier juif et sa rénovation, a culminé par l'inscription de Třebíč au patrimoine de l'UNESCO.
Des deux synagogues de Třebíč, aucune n'est utilisée aujourd'hui à des fins de culte. La synagogue dite antérieure, plus ancienne, est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, propriétaire de l'église tchécoslovaque Husit. La grande synagogue postérieure, élevée autour de 1660 dans le style Renaissance avec des éléments baroques, est une merveille du quartier juif de Třebíč. L'entrée, sous une voûte d'arête, est reliée à la salle centrale par trois arcades. Les murs sont décorés de textes liturgiques en hébreu et d'ornements en motifs végétaux. Le mur oriental, le plus important dans la synagogue, puisque orienté vers Jérusalem, dissimule un sanctuaire où étaient déposés les rouleaux sacrés de la Torah. Les textes ainsi que les décorations datent des années 1706-1707. Mais au siècle dernier, la synagogue menaçait de tomber en ruine, raconte notre guide.
En 1926, avec la diminution de la population juive, la synagogue a été désacralisée pour servir de dépôt, d'abord à la société Isaac Hermann Subak, une des familles les plus importantes de Trebitsch, propriétaire d'une usine de traitement des peaux. Après 1948, la synagogue a été utilisée par l'entreprise nationale Zelenina, légumes, comme dépôt de pommes de terre. Des travaux de rénovation complète entamés après 1989 ont pris fin en 1997, date à laquelle la synagogue a ouvert pour la première fois ses portes au public.
Depuis, la synagogue accueille régulièrement des concerts, des expositions et des conférences. Le festival de culture juive Shamaïm, les cieux en hébreu, qui se tient à Trebitsch au tournant des mois de juillet et d'août, en était cette année à sa 9e édition. Une exposition intitulée « Les juifs dans le combat et la résistance » rend hommage au 70e anniversaire des premières déportations des juifs de Trebitsch en mai 1942. Les noms de 270 victimes de la Shoah sont inscrits sur une plaque commémorative en verre à l'intérieur de la synagogue. Le bâtiment attenant à la synagogue abrite le siège du musée de Trebitsch. Une exposition y retrace la vie d'une famille juive de Trebitsch dans les années 1930.
Pour ce qui est de l'histoire de cette maison, elle a été bâtie avant 1798 par Seligman Bauer, un homme originaire d'Espagne. Plusieurs maisons et une synagogue ont été construites sur des terrains rachetés par lui. Ces maisons, ainsi que les autres du ghetto de Trebitsch, ont su conserver leurs caractéristiques architecturales. Ainsi, en raison de l'espace réduit que constitue le ghetto, elles étaient scindées en plusieurs étages pour héberger de nombreuses familles. Dans la majorité des maisons juives, la vie s'est organisée de la manière suivante. Une cuisine et un appartement privé au premier étage et le magasin ou les ateliers d'artisans au rez-de-chaussée.
Le musée expose des meubles et des objets liés à la culture et la religion juive. Le visiteur y apprend ce qu'est le pain azim, un pain non levé cuit durant la fête de Pessah. Il peut se familiariser avec l'objet dénommé Mizra, soit une plaque ornementale accrochée au mur est des foyers juifs auxquels font face les orants lors de leurs prières afin de se tourner dans la direction de Jérusalem. Il y a ensuite le chandelier à 8 branches allumé pendant la fête des Lumières, Hanouka, ou encore la Mezouza, un objet de culte consistant en rouleaux de parchemin comportant 2 passages bibliques fixés aux portes du lieu d'habitation. Mais le quartier juif de Trebitsch n'est pas un musée, ce sont des rues vivantes avec des cafés, des restaurants et de boulangeries. Plus de la moitié des maisons sont propriétés privées. Au fil du temps, certaines maisons ont été agrandies en sorte qu'elles forment un labyrinthe avec plusieurs entrées et sorties. Et nous voilà déjà devant la maison numéro 53 de la rue Leopold Pokorny, du nom d'un homme originaire de Trebitsch, parti combattre en Espagne où il est tombé en 1937, à l'âge de 33 ans. Notre guide nous montre le bâtiment de l'ancienne école primaire juive. De 1867 jusqu'en 1929, seuls les garçons avaient le droit de fréquenter l'école dès l'âge de 5 ans, tandis que les filles étaient obligées de rester à la maison et d'apprendre à cuisiner, à coudre et à faire le ménage. Autre lieu central de la vie communautaire juive d'autrefois, le mikvé, bain rituel utilisé pour l'ablution nécessaire au rite de purification. 2 mikvé se sont conservés à Trebitsch, l'un d'entre eux se trouve à l'intérieur de l'hôtel Joseph. Son propriétaire nous autorise à entrer dedans pour regarder ce bain creusé au sol, suffisamment profond pour que le corps puisse être immergé totalement dans l'eau. Derrière l'hôtel, une rue monte vers le cimetière juif, troisième élément inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Fondé au début du XVIIe siècle, il compte 11 000 tombeaux et près de 3 000 stèles de style baroque et du classicisme. La plus ancienne pierre tombale date de 1625. Et c'est là que notre visite du quartier juif de Třebíč se termine. Merci de votre attention et à la prochaine.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, en podcast, en streaming ou également sous forme d'articles. Je vous rappelle notre adresse que vous connaissez évidemment, www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.